S'il y a un mot à retenir pour aujourd'hui, c'est bien le mot de serviteur. Dans la première lecture, nous sommes 550 années à peu près avant la vie de Jésus. Et pourtant, ce texte, nous avons l'impression qu'il a été écrit en parlant de Jésus. Le serviteur a plu au Seigneur. Vous savez, c'est ce serviteur souffrant que dépeint Isaïe durant 4 chapitres qui annonce ce serviteur qui va mourir en se laissant faire, comme une brebis qui avance vers l'abattoir. Et il nous est dit que, broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. Et là, il y a un très gros contresens qu'il est très vite fait de faire, c'est de croire que le Seigneur, notre Dieu, eh bien, aime bien quand on souffre. Eh bien, ce n'est pas vrai. Le serviteur a plu au Seigneur parce que, premièrement, déjà, il sert le Seigneur. Le serviteur est au service. Et dans le service, il a subi de la souffrance, il a subi des difficultés. De qui parle-t-il s'il ne parle pas de Jésus, Isaïe, puisqu'il écrit 550 ans avant Jésus? Eh bien, je pense qu'il parle d'Israël, le peuple entier. Israël, à ce moment-là, est exilé. Il a dû quitter sa terre, comme beaucoup d'êtres humains aujourd'hui dans notre monde qui sont obligés de quitter leur terre. Et là, ils ont été pris par les Babyloniens et emmenés jusqu'à Babylone. Et donc, ils souffrent de ne plus être chez eux, de quitter leur terre. Et qu'est-ce qu'on fait de cette souffrance? Est-ce que je me laisse écraser par les malheurs de ce monde? Ou bien, à travers cela, je trouve une cause, peut-être une force, un élan pour agir, pour la justice? Ça me fait penser à des figures comme Nelson Mandela, par exemple, qui a pris la cause afro-américaine à cœur, liée à des décennies et des siècles de persécution, voilà, de racisme. Et bah, tout cela, toute cette souffrance, il l'a comme sublimée pour en faire un défenseur de la liberté et de la tolérance. Et il y a sûrement plein d'autres exemples comme ça. Face à une souffrance, j'ai 2 choix possibles. Soit d'abandonner et d'être seul face à cette souffrance, et je me laisse souvent écraser. Ou bien je me tourne vers le Seigneur, je me tourne vers mon prochain, et ensemble nous avançons à la mesure que le Seigneur me permet. Parfois c'est difficile parce que la souffrance est tellement dure. Avant Jésus, on pourrait même dire que cela était quasiment impossible. Mais dans la deuxième lecture, Jésus, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, est le grand prêtre par excellence. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, le grand prêtre, c'est celui qu'on a mis à part pour permettre une relation plus facile entre Dieu et les hommes. C'est celui qui doit faire le pont entre les hommes et Dieu. Et avant Jésus, eh bien, on se rendait bien compte que le grand prêtre qu'on choisissait, bah, c'était quand même un homme comme les autres, même s'il recevait des grâces spéciales du Seigneur. Et finalement, il y avait toujours quand même des petits problèmes. Alors, Dieu a envoyé son Fils, qui est devenu le grand prêtre par excellence. Car Jésus est celui qui peut faire le pont entre Dieu et les hommes de manière la plus parfaite possible. Pourquoi? Parce que Jésus est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Il est le Fils de Dieu, et en cela, il est à l'égal de Dieu. Mais il s'est fait homme, fils de Marie, et en cela, il s'est fait l'égal de nous, et il a accepté aussi de prendre la condition humaine dans toutes ses dimensions, jusqu'à souffrir, jusqu'à accepter de compatir à nos faiblesses, nous dit le texte. Un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. C'est pour cela que nous sentons toujours attirés par Jésus, parce qu'il nous ressemble. Même s'il est Dieu, il est comme nous. Et c'est la fête de Noël qui touche tellement les hommes, les femmes. Et c'est pour ça que c'est souvent la messe où il y a le plus de monde possible. Parce que Dieu se fait homme et cela nous rejoint profondément, et on sent bien qu'il y a quelque chose de vrai. Et c'est pour ça que vous, les jeunes aujourd'hui, vous ressentez aussi, même si vous n'êtes pas capable de mettre des mots, mais en fait, si vous êtes capable, puisque vous avez écrit cette belle profession de foi, vous ressentez que ce message de Jésus est vrai et qu'il peut, voilà, vous faire avancer. Eh bien, il y en a d'autres qui ont ressenti la même chose que vous. Eh bien, c'est Jacques et Jean. Jacques et Jean, ça fait presque 3 ans qu'ils suivent Jésus, qui entendent son enseignement. Et ils se rendent bien compte que, oui, Jésus, c'est lui le Messie. Le Messie. Qu'est-ce que ça veut dire, Messie ? Jésus-Christ, Christ. C'est la même chose. Christ, c'est en grec, et Messie, c'est en hébreu. C'est celui qu'on attend, celui qui doit nous libérer. Comme on attendait, vous savez, tout à l'heure je parlais du peuple d'Israël qui était exilé à Babylone, qui espérait un libérateur. Et là, à ce moment-là de l'évangile, c'est les Romains qui dominent la région. Alors, le peuple attend un libérateur, ils attendent le Messie. Et après 3 ans de cheminement avec Jésus, Jacques et Jean, ils savent. Oui, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est celui qui va nous libérer. Alors, c'est beau comme profession de foi déjà, mais ils n'ont pas tout forcément bien compris de quelle manière Jésus veut devenir le roi d'Israël. Alors, ils demandent simplement, ils sont conscients de leur qualité, voilà, on est capable d'organiser les choses, eh bien, est-ce que tu ne veux pas qu'on soit tes premiers ministres ? Que je siège l'un à gauche, l'un à droite, l'un à ta droite. Et alors Jésus ne leur reproche pas ce désir. En effet, c'est bon de vouloir devenir grand. Parfois on pourrait dire, c'est pas bien l'ambition. Mais Jésus ne les rabroue pas. Jésus leur dit, oui, c'est bien de vouloir devenir grand, mais attention, c'est pas le bon chemin qui se passe dans votre cœur, dans votre tête. Si vous voulez devenir le plus grand, eh bien il va falloir faire comme moi, devenir serviteur. Serviteur, c'est celui qui sert, qui rend service. Si on utilise un autre mot, c'est celui qui aime. Et on pourrait associer la fonction de serviteur à la vertu de la charité, la vertu de l'amour. Cet amour de Dieu, du Père pour le Fils, du Fils pour le Père, qui nous a donné dans les sacrements, depuis le jour de votre baptême, le jour de votre communion, cette communion que va recevoir Maëlle tout à l'heure, elle va s'unir, voilà, comme tous ceux qui vont communier tout à l'heure, eh bien à cet amour, à cette charité qui nous permet, durant le reste de la semaine, eh bien de pouvoir la partager. Alors, dans notre vie chrétienne, posons-nous peut-être cette question pour cette semaine. Ne nous posons pas la question, est-ce que je suis un bon prêtre, un bon chrétien qui expose sa foi, qui vit de sa foi dans les rites, dans le culte. Ça, c'est une bonne question, mais pas pour aujourd'hui. Je ne me pose pas non plus la question, est-ce que je suis un bon témoin de l'espérance ? Ça, c'est pour un autre jour. Mais aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que je suis un bon serviteur de la charité ? Est-ce que je suis capable de charité ? Seigneur, éclaire-nous dans son chemin à ta suite. Aide-nous à être de véritables serviteurs de ton amour.